5h56, la matinale d'Europe 1 se poursuit. Julien Pierce, Pierre de Villeneuve.
Bonjour Pierre.
Bonjour Julien, comment ça va?
Oh bah, ça ne peut, on ne peut mieux avec du Jacques Brel, avec Ombline Roche, avec
vous. Elle nous a fait pleurer, Ombline.
Jacques Brel vous a fait pleurer, oui, ça va très bien, merci.
Bah oui, Jacques Brel nous a fait pleurer avec ce dernier titre qui restera. Pour moi, en tout cas, dans la tête pour toute la journée. Voilà.
Ouais, tant mieux, c'est le but.
Quand on n'a que l'amour. Ouais. Merci, mon cher Julien. Vous restez pensif. Et sur ces pensées, vous allez nous quitter avant de nous retrouver lundi.
Avec grand plaisir.
À lundi. Merci beaucoup. Bonjour à tous en ce vendredi 22 mai. Tiens, on commence par un petit air de musique aussi. Ça vous rappelle quelque chose, Ombline ?
Ça me rappelle une pub Renault.
Eh oui.
C'est ça,
exactement. C'est la pub Renault dans les années 80. Renault, des voitures à vivre sur cette chanson de Robert Palmer. Renault, on va en parler ce matin avec la reprise à l'usine de Sandouville. Il n'empêche que des sites sont menacés. Bruno Le Maire arrivera-t-il à rassurer les salariés de ces usines ? Il sera là tout à l'heure dans ce studio à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Avec vous aussi au 3921. Il répondra à vos questions. Si vous travaillez justement chez Renault, si vous êtes concerné par ces problématiques, vous l'appelez 3921. Il répond à vos questions également avec le hashtag Radio Ouverte. Le ministre de l'économie prépare en plus un plan de relance pour tout le secteur auto qui est en crise et qui risque de connaître un été et un automne très très difficiles. On y revient dans les journaux et aussi avec Nicolas Barré tout à l'heure à 7h et avec Francis Bartholomé, le patron du CNPA, le MEDEF de l'automobile. Tout à l'heure, c'est à 7h40. L'actualité, c'est aussi le soleil qui vous fait sortir, qui vous emmènera, on l'espère, dans les parcs d'attractions, qui retrouve le sourire. D'autant que les chiffres du recul du Covid sont pour l'instant, je dis bien pour l'instant, très encourageants. Il ne faut pas baisser la garde. L'idée, c'est de continuer de rester prudent. Et puis comme c'est vendredi, qu'on aime bien la musique ici, entre Jacques Brel, entre Robert Palmer, on vous emmènera à la Nouvelle-Orléans chez Didi Bridgewater. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est le périscope de Jean-Philippe Ballas tout à l'heure vers 8h moins le quart. Mais d'abord, le soleil du jour est signé Laurent Cabrol. Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour mon cher Pierre et rebonjour à tous. C'est une journée assez curieuse, je dois le dire. D'abord parce que nous voyons arriver des nuages et des pluies, ça c'était prévu. Mais les pluies sont vraiment très très faibles. Elles sont actuellement sur un axe Le Mans, Le Havre, Rouen. Elles se dirigent vers Amiens et Calais, vous voyez un petit peu le genre. Mais elles resteront là, elles sont pas très loin de Paris, à 150 km de Paris. Mais je pense pas qu'elles viendront sur la capitale. Donc elles vont rester vraiment sur les régions du Nord-Ouest, sur la Manche et la Mer du Nord. Et ces pluies ne sont pas vraiment très violentes, malheureusement pour certains, et nous aurons donc un temps humide, mais sans plus. Alors que plus nous irons vers le sud, et plus le temps sera dégagé. Je parlerai tout à l'heure des nuages un peu plus présents sur le Poitou-Charentes, la Vendée et le centre. Vous dire que, autre curiosité qui m'a fait bondir tout à l'heure, ce sont les températures, puisque à Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, qui sont les villes d'ordinaire les plus humides ou les plus fraîches, il faudra entre 21 et 22 degrés. Rendez-vous compte. 21 à 22. Non, il fera pas. Il fait
déjà. Et il fera
21
plus.
À 22 degrés. Oui, oui. Cet après-midi, c'est Lyon qui sera la ville la plus chaude avec 31 et Brest 18. Voilà. La moins chaude.
Merci Laurent Cabrol. Et bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Jusqu'à 9h30, l'info en direct sur Europe 1.
Europe 1, il est 6h.
C'est la locomotive économique de toute une région. À 1 euro dépensé au Puy du Fou, ce sont des retombées à peu près de 3,20 euros sur la région des Pays de la Loire.
Le moteur de toute une économie locale sur le point de repartir, le Puy du Fou, parc ATM vendéen, 7000 emplois directs et indirects, annonce sa réouverture le 11 juin. Pour les autres parcs du même type, ce pourrait être le 2 juin dans les zones vertes. Ils espèrent être prêts pour les vacances d'été. Édouard Philippe doit annoncer aujourd'hui la date du second tour du scrutin municipal le 28 juin. Tient la corde. Bruno Le Maire, invité d'Europe 1 ce matin. Rendez-vous 8h15. Le ministre de l'économie attentif au sort de Renault qui envisage de fermer des sites et de licencier, de quoi faire gamberger dans les usines.
Ça reste des on-dit pour l'instant médiatiques. Après, oui, ça peut troubler le fait d'aller travailler.
Dans ce journal, de tout premiers indicateurs du déconfinement plutôt rassurant. 11 jours après, nous appellerons le secrétaire général de SOS Médecins. Et puis un commerçant peut-il refuser votre paiement en espèces de peur d'être contaminé par des pièces ou un billet? Non, c'est illégal. L'argument sanitaire n'est pas recevable.
Les études qui ont été faites montrent que les billets de banque, eh bien, sont moins porteurs que justement une carte bancaire que l'on met dans un terminal de paiement.
Votre invité à 6h40, Pierre.
Alain Griset du Conseil des commerçants de proximité. Les apprentis sont-ils menacés dans cette crise? Oui, et il nous dira ce qu'il faut faire.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Pierre de Villeneuve, Jérôme Lacroix.
Un peu plus de bleu dans les cieux de nos vacances d'été. Plusieurs sites touristiques ainsi que des parcs à thème pourraient rouvrir à partir du 2 juin seulement dans les zones vertes. Et si l'épidémie ne reprend pas de vigueur, la date doit être confirmée par le gouvernement la semaine prochaine.
Seraient concernés Vulcania à Clermont-Ferrand, la Cité de l'Espace à Toulouse ou encore le Puy du Fou. La direction du parc vendéen annonce une réouverture le 11 juin. Le temps de tout préparé, un soulagement pour un grand nombre d'élus et de professionnels des environs, tant le site est un moteur de l'économie locale. Charles Guyard.
C'est une belle victoire, c'est un ouf de soulagement.
La réouverture du Puy du Fou, Véronique Besse peut d'autant plus la savourer qu'elle avait lancé une pétition dès le 9 mai pour la réclamer. Pétition qui, en quelques semaines, avait recueilli pas moins de 24 000 signatures. Il faut dire que pour la maire des Herbiers, commune située à 8 km, le parc représente un atout considérable.
C'est la locomotive économique de toute une région. Un euro dépensé au Puy du Fou, ce sont des retombées à peu près de 3,20 euros sur la région des Pays de la Loire. Il y avait vraiment des gens en difficulté, notamment des hébergeurs qui, toute l'année, mise sur l'ouverture du Puy du Fou pour accueillir des touristes et qui, là, n'avaient aucune réservation. Donc, ça devenait économiquement problématique.
Illustration à la maison Marie Barrault. Cet hôtel, situé également aux Herbiers, dépend directement de l'activité du Puy du Fou, surtout en cette saison. En résumé, si le parc est vide, l'établissement le reste aussi.
Je suis en train de traiter les annulations jusqu'au 5 juin.
Gérard Soulard, patron de l'hôtel.
Parce qu'en cette période de l'année, 90% de notre clientèle, c'est une clientèle du Puy du Fou. Donc, quand le Puy du Fou est fermé, on est quasiment à l'arrêt.
Avec la réouverture du parc le 11 juin, c'est donc toute une économie qui va reprendre progressivement. Le Puy du Fou, cela représente 7000 emplois directs et indirects dans le secteur. Les Herbiers, Charles Guyard, Europe 1.
Le tourisme qui doit bénéficier d'un plan d'aide de 18 milliards d'euros. Et combien pour un autre secteur en crise? L'automobile, le plan du gouvernement doit être dévoilé la semaine prochaine. Bruno Le Maire est ce matin l'invité d'Europe 1.
Oui, et rendez-vous à 8h15, interview de Sonia Mabrouk. Et puis vous, bien sûr, ensuite, vous posez vos questions au ministre de l'économie, 3921, ou le hashtag Radio Ouverte.
Il sera notamment question de Renault qui pourrait fermer au moins 3 sites et licencier en raison de la crise. La marque Fleuron Français doit économiser 2 milliards d'euros. Elle présente un plan de sauvetage vendredi prochain. Bruno Le Maire qui dans le Figaro ce matin met la pression sur le constructeur. Le prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros n'est pas encore signé. Renault doit s'engager notamment sur un maintien d'activité en France.
Comment ces incertitudes sont-elles vécues par les salariés dans les usines? Nous avons contacté ceux du site de Sandouville en Seine-Maritime. Le travail y a repris tout juste hier soir. Après 2 semaines de fermeture sur décision de justice pour raisons sanitaires, procédure de la CGT, mais dénoncée par les autres syndicats. Gilles Henry est délégué CFE-CGC à Sandouville.
Je suis très heureux de pouvoir reprendre l'activité après 8 jours de fermeture administrative. Donc une vraie injustice pour moi de ne pas pouvoir aller travailler pendant ces 8 jours-là.
Et la situation du groupe, l'actualité autour de Renault, est-ce que ça pèse sur le moral au moment de revenir?
Toute fermeture faisant partie d'un groupe pèse. Quand on nous dit que sur le groupe Renault France, 4 usines sont susceptibles, parce que c'est susceptible, moi j'ai pas eu de confirmation de la part de mon entreprise. Donc ça reste des on dit pour l'instant médiatiques. Après, oui, ça peut troubler le fait d'aller travailler.
Renault, l'aide au secteur automobile, à l'aéronautique aussi, notre économie en temps de crise du coronavirus, les réponses de Bruno Le Maire à partir de 8h15 sur Europe 1.
Et l'avis de Francis Bartholomé, président du Conseil national des professions automobiles, également tout à l'heure à 7h40. Le gouvernement va trancher aujourd'hui sur la date du second tour du scrutin municipal, qui n'a, vous le savez, pas pu se tenir en mars. Le Premier ministre Édouard Philippe doit s'exprimer ce matin.
Date sans doute choisie le 28 juin, sauf si d'ici là la situation sanitaire se dégrade, Adrien Beck.
Trouver la solution la moins mauvaise, voilà à quoi s'est employé Édouard Philippe ces dernières heures. L'option qui tient la corde, un second tour le 28 juin, date souhaitée par Emmanuel Macron et son Premier ministre, voulue par les maires. Elle présente l'avantage d'en finir rapidement avec le douloureux chapitre municipal, une date conditionnée bien sûr à la situation sanitaire et avec d'autres inconnus. Quelle sera la participation et comment faire campagne sans faire de réunion alors qu'il sera difficile de distribuer des tracts et de faire du porte-à-porte. Une élection sans campagne, c'est compliqué, mais il faut en finir, dit un ministre, quitte à favoriser les maires sortants et à sacrifier les candidats de la majorité. quelle que soit la date, assure un ministre, ça n'inversera pas la vapeur pour les candidats de La République En Marche.
Édouard Philippe doit remettre aujourd'hui ou demain matin son rapport au Parlement. Le conseil scientifique sera appelé à donner une nouvelle fois son avis 2 semaines avant la date fixée. Sur le front de l'épidémie, toujours la décrue depuis plus de 40 jours maintenant du nombre de patients à l'hôpital en réanimation. Ils sont 1745 désormais, près de 64 000 personnes guéries depuis le 1er mars.
Pour un bilan de 28 215 décès, 83 supplémentaires ces dernières 24 heures. Une première, aucun nouveau décès enregistré en Nouvelle-Aquitaine, l'une des régions toutefois les moins touchés.
Déconfinement jour 11, cette liberté retrouvée encore encadrée a-t-elle eu des effets sur la situation épidémique en France? Peut-on déjà savoir par exemple si le virus reprend de la vigueur ou si au contraire il continue de reculer? On a déjà quelques indicateurs ce matin, une petite idée provisoire via les médecins généralistes mais aussi SOS Médecins.
Bonjour Serge Smadja.
Bonjour.
Secrétaire général de SOS Médecins, ce matin des chiffres encourageants de votre côté?
Oui. On voit que déjà depuis plusieurs jours et quelques petites semaines, l'activité est nettement en baisse. Nous rencontrons beaucoup moins de gens qui présentent des tableaux suspects de Covid. Pour vous donner un ordre
beaucoup
de grandeur...
Dix fois moins, hein, oui, 10 fois moins, Serge Smadja.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est de l'ordre de 10 fois moins, puisque au pic de l'épidémie fin mars, notre activité quotidienne était presque de 2500 suspicions Covid par jour. Et aujourd'hui, on est autour de 300-350, c'est de cet ordre-là. Donc, l'activité baisse nettement. Ouais. Nous procédons donc... conformément à la doctrine, nous procédons au test dès que possible parce qu'il faut tester et isoler et remonter la chaîne de contamination. Et nous avons aussi une bonne nouvelle que beaucoup de tests reviennent négatifs. Mais bon, on a une activité qui est donc nettement en baisse. Mais
prudence, parce que là, il y a eu le déconfinement. Et on sait que la période d'incubation, c'est 2 semaines, c'est 14 jours.
Voilà, période d'incubation 2 semaines. Le temps que les gens, quand ils présentent des symptômes, voient leur médecin. Parfois, ils attendent encore un jour ou deux. Le temps d'avoir le résultat du test. Et après, il faut remonter la chaîne et il faut tout faire pour bloquer la transmission, la propagation de l'épidémie. Essayer de remonter toute la chaîne pour éviter, évidemment, que ça reparte. Pour l'instant, la baisse s'est stabilisée. On va dire, on peut pas dire que ça remonte.
Ça veut dire que vous craignez un scénario catastrophe ou pas du tout? Ou ce scénario catastrophe, il est exclu?
Alors, je crois que personne peut dire c'est difficile à dire qu'il soit exclu. Je pense que cette hypothèse reste l'hypothèse la moins probable. Mais pour autant, faut faire attention à ce qu'on dit, parce que si on dit ça et que les gens considèrent que tout est gagné et qu'ils ne font plus attention du tout, là peut-être qu'on risque d'avoir une très mauvaise surprise.
Eh bien, merci Serge Smadja. On restera prudent. Secrétaire général de SOS Médecins, merci d'avoir été ce matin l'invité du journal de 6h sur Europe 1.
Cette question à présent, un commerçant peut-il refuser que vous le payiez en espèces par peur d'être contaminé par vos pièces ou vos billets? Eh bien non, c'est illégal.
La répression des fraudes a été saisie, elle prend le sujet très au sérieux, Clément Le Saffre.
En la matière, il y a une règle absolue. Les espèces sont le seul type de paiement que les commerçants sont obligés d'accepter. En cas de refus, c'est 150 euros d'amende coronavirus ou pas. Sauf que certains petits commerçants comme grandes enseignes ne jouent pas le jeu en acceptant que la carte bancaire pour des raisons soi-disant sanitaires. Et c'est ce que dénonce François Daoust, délégué général de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire, qui vient de saisir la répression des fraudes.
Les études qui ont été faites montrent que les billets de banque sont moins porteurs que justement une carte bancaire que l'on met dans un terminal de paiement. À partir du moment où le caissier ou la caissière scanne ce que vous avez posé sur le tapis roulant, on se focalise sur un faux problème.
Alors nous avons contacté des entreprises accusées de refuser des paiements en espèces. Castorama et Bricomarché par exemple plaident une erreur de communication et assurent que tous les types de paiements sont acceptés. En revanche, la chaîne de fast-food Burger King assume, si le respect de la sécurité de nos équipiers et nos clients l'exige, nous pouvons être amenés à refuser le paiement en espèces. Et ce, alors même que le défenseur des droits rappelle aux commerçants que refuser les espèces est illégal, mais aussi discriminatoire envers les populations les plus vulnérables, qui n'ont parfois pas d'autres moyens de paiement.
Des manifestations de soignants hier, notamment à Paris, devant l'hôpital Robert Debré, plusieurs centaines. Ils réclament plus de moyens pour l'hôpital public et des hausses de salaire. Une grande consultation baptisée Ségur de la Santé, du nom de l'avenue parisienne où se trouve le ministère de la Santé, doit démarrer lundi.
D'ailleurs, on en reparle dans cette matinale d'Europe 1 de ce Ségur de la Santé.
Europe 1, il est 6h11.
Le virus frappe fort l'Amérique du Sud. Bilan quotidien record de décès au Brésil. Plus de 1100 morts pour plus de 20 000 décès désormais.
Les États-Unis, pays le plus mortel, tellement touché, plus de 94 500 décès. Les drapeaux des édifices fédéraux seront en berne partout dans le pays d'aujourd'hui à dimanche, annonce cette nuit Donald Trump pour honorer les victimes. Et puis la Chine annonce qu'elle ne fixera pas d'objectif de croissance cette année, c'est inédit.
Annonce du Premier ministre cette nuit lors de la session annuelle du Parlement au cours de laquelle les autorités se sont félicitées, je cite, d'une réussite stratégique majeure dans le combat mené contre le virus.
Nous parlions en début de journal de la possible réouverture des parcs à thème le 2 juin en zone verte donc pour les vacances d'été, mais qu'en sera-t-il des voyages à l'étranger? Plusieurs pays, souvent prisés, ont l'intention de rouvrir leurs frontières. C'est le cas de la Grèce. Dès le 15 juin, les ressortissants européens pourront atterrir à Athènes, Élise Dangean, mais pas tous, hein.
Alors attention, pas question pour la Grèce de faire entrer tout le monde. Seuls une vingtaine de pays pourront envoyer leurs ressortissants sur le sol grec, notamment les moins impactés par l'épidémie. Le ministre du Tourisme a déjà cité l'Allemagne et les Balkans. Mais qu'en est-il de la France? Eh bien, selon nos informations, elle pourrait elle aussi faire partie du club, pour une raison assez simple. C'est l'un des pays qui envoie le plus de touristes en Grèce. Le verdict devrait tomber d'ici la fin du mois de mai. Et si la France fait partie des heureux élus, les compagnies aériennes l'assurent, elles seront prêtes. Le Paris-Athènes d'Air France va par exemple monter en puissance tout au long du mois de juin. Reste à savoir si les Français auront le droit de partir hors des murs, une question qui n'est toujours pas tranchée par le gouvernement.
Avant les vacances d'été, vous profitez peut-être de ce pont de l'Ascension ensoleillé. Les forces de l'ordre constatent pour l'instant un respect global de la règle des 100 km.
Et ceux qui franchissent cette ligne rouge, s'il reste rare, cumule souvent d'autres délits routiers. Dans la Drôme, hier, 5 jeunes contrôlés sur l'autoroute A7 vers Valence en direction du sud. Récit de Patrick Martinez, chef d'escadron à la sécurité routière du département, il raconte.
Deux véhicules ont été contrôlés à 239 et 240 km/h. Une Audi RS4 et une Audi A3, avec 5 personnes au total, qui venaient de la commune de Hyères, qui semble-t-il étaient partis faire la fête à Lyon, sans motif légitime, et qui de fait là ne respectaient pas non plus la distance des 100 km. À cela, l'un des véhicules, le chauffeur en titre, lui aussi cumulait encore plus, puisqu'il n'avait plus le droit de circuler, mais en plus son véhicule n'était pas assuré. Moralité, les deux permis de conduire ont été retirés sur le champ et en plus, leur véhicule est mis en fourrière jusqu'au jugement. Donc effectivement, ça va leur coûter cher. Depuis le début du confinement, nous avons effectivement constaté un esprit cumulatif chez les personnes qui ne respectaient pas le confinement. C'était souvent aussi des personnes qui ne respectaient pas le code de la route.
Patrick Martinez, chef d'escadron à la sécurité routière de la Drôme, propos recueilli par Marion Dubreuil.
Et tout cela est très constructif. Et si vous n'avez pas la possibilité de partir, un bon moyen de s'aérer l'esprit et le corps, c'est le sport. Sauf que le foot ou le basket entre copains, désormais, c'est sans se toucher. Geste barrière oblige. Et c'est loin d'être évident. Comme l'on dit, c'est sportif déconfiné à Mathieu Bock.
Après 2 mois de confinement, quand on a envie de sortir, c'est normal, on va aller jouer au foot.
Sur ce terrain de foot coincé entre 2 immeubles, seul le gardien porte un masque et encore sous le menton. Ils sont moins de 10 à jouer et même s'ils essaient au maximum de ne pas se toucher, impossible de résister à ce foot au soleil.
Même si on se pousse, etc., franchement, on reste un peu à distance.
Vous jouez moins musclé qu'avant?
Franchement, je vais vous dire, je préfère jouer comme ça dans un terrain collectif avec peu de personnes que monter dans les transports. Franchement, il y a des gens dans le métro, j'ai vu ça, ils respectent pas les distances, etc. Ils sont prêts presque à vous embrasser.
Un peu plus loin, Jordan et Abel s'affrontent en 1 contre 1 sur un terrain de basket. Eux aussi ont modifié leur manière de jouer.
Bien sûr, on essaie de faire attention, mais en même temps, on veut pas perdre parce que c'est aussi un peu de compétition. Et ouais, forcément, du coup, on essaie de garder une distance de sécurité, mais on n'y arrive pas toujours.
Là, on essaie de moins coller. Là, on essaie juste de contrer le shoot. De toute façon, là, on joue pas sérieusement. Mais ouais, le basket, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Et avec le confinement, c'est compliqué.
Et même si les deux garçons sont ravis de rejouer ensemble, ils se rendent bien compte qu'ils ont perdu leur niveau d'avant et ne pensent pas le retrouver avant l'été.
Et puis, on parle de sport. Tenez les travées d'un stade garni de supporters en carton. C'est l'idée en du carton. Club de foot, oui, de Mönchengladbach, première division allemande, la Bundesliga, qui a repris la semaine dernière. On vous en a parlé sur Europe 1, mais à huis clos, donc sans fans de chair et d'os. Alors le club propose de remplir les gradins avec votre avatar en carton. une figurine avec votre visage, moyennant 19 euros.
Ah.
Match demain contre les Leverkusen. 13 000 mannequins sont déjà installés dans un stade qui compte 54 000 places.
C'est une question d'argent, alors. Fallait le dire dès le départ.
J'ai trouvé ça
parce que d'abord, les cartons, on se dit, mais à quoi bon?
Il paraît que les joueurs ont dit c'est vraiment bien.
En fait, c'est pour
bien
soutenir aussi le stade.
Oui, apparemment, les
19 euros fois, je ne sais pas combien, 54 000 places, voilà.
C'est pas encore
vous savez ce que disait Gordon Gekko dans Wall Street?
Dites-moi.
It's all question of box, rest is conversation. C'est toute une question d'argent, le reste c'est de la conversation. Voilà.
C'est un point de vue.
C'est un point de vue, en effet, très assumé d'un banquier libéral de Wall Street dans les années 80, donc on peut comprendre. Merci Jérôme Lacroix et à tout à l'heure pour le journal de 7h30.
Europe 1. La matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve, votre invité dans un instant, Pierre.
Oui, vous connaissez le cabinet Occurrence. Occurrence, on vous en parle de temps en temps quand il y a eu la manifestation des Gilets jaunes, quand il y a eu la manif pour tous, quand il y a eu des tas de grandes, grandes manifestations, notamment, je dis bien notamment parisiennes. Eh bien, il compte parce que depuis des années, on a, vous savez, les chiffres de la police et les chiffres des syndicats, des manifestants. Eh bien, Occurrence a réussi à faire le point pour les médias et à regrouper, à compter eux-mêmes ces chiffres-là que nous utilisons et ils les ont utilisés pour le déconfinement. Assel Adari, le président d'Occurrence, est mon invité.
La matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve, il est 6h18, c'est l'heure de l'invité inattendu tous les matins, un sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler.
Oui, et c'est l'une des bonnes manières, des bons réflexes qu'ont pris les Français pendant le confinement, délaisser la voiture, pas par choix, mais la marche, le vélo ont par exemple pris la place de l'auto. Est-ce que cette pratique a continué malgré le confinement? C'est la question qu'on pose ce matin.
Et votre invité inattendu ce matin, Pierre, c'est Assel Adari, président d'Occurrence.
Bonjour Assel Adari.
Bonjour.
Alors je le disais, vous avez un métier passionnant, c'est celui de compter. D'ailleurs, vous nous aidez bien, nous médias, parce que vous avez su signer l'arrêt de la partie, en tout cas siffler l'arrêt de la partie entre le fameux « selon les manifestants » versus « selon la police ». Ça, c'était pendant les manifs, et en deux ans, Dieu sait qu'on en a eu. Pendant le confinement et le déconfinement, vous avez changé votre fusil d'épaule et vous avez compté les gens.
Oui. Ça nous a paru logique parce que le problème était le même, hein, c'était un flux extérieur, donc assez similaire, et puis quand même le même problème sous-jacent qui était objectiver, mettre un chiffre là où il y a une bataille d'opinion, et ça c'est quand même le propre du fait par rapport à l'opinion, c'est d'essayer d'arriver à objectiver, à quantifier, en tout cas à porter un regard qui soit ni partisan, ni jugé parti, ni idéologique mm-hmm. aussi, donc c'était voilà, le but nous semblait le même.
Et la méthode est la même qu'avec les manifestants du coup?
Tout à fait, et elle est la même, si ce n'est qu'on intègre évidemment deux petites différences. On intègre les voitures, voilà, mm-hmm. qui n'ont pas lieu d'être dans les manifestations, et un autre point qui peut paraître amusant, mais évidemment on compte les flux dans les deux sens, alors qu'une manifestation, justement, il y a un sens unique. Voilà.
Donc là, on compte, et alors, vous vous positionnez toujours à Paris, du côté de Montparnasse, pourquoi? Est-ce que c'est représentatif comme endroit?
Alors en fait on l'a choisi, hein. C'est aussi un rapport aux moyens que l'on avait pour déployer la démarche. On s'est dit l'enjeu était pas tant d'avoir une vision globale, mais que les variations fassent sens. Donc en fait là aussi dans la science dure, l'idée n'est pas forcément la perfection, mais de maintenir un protocole de mesure similaire tout au long de la démarche. On a mesuré avant des confinements, juste après, et on continue chaque mardi de la même manière pendant les mêmes horaires, avec la même méthodologie, les mêmes capteurs, etc.
Mais pardonnez-moi cette question, pourquoi Montparnasse? Parce que c'est en bas de chez vous ou...
Ah non, pas du tout, c'est pas en bas de chez nous, on a considéré, alors d'abord c'est un lieu qu'on avait l'habitude de compter, parce que beaucoup de manifestations boulevard Montparnasse. Donc c'était un premier lieu qu'on connaissait bien, le lieu, la capacité aussi d'un hôtel. Et là je lui rends hommage parce qu'il a même ouvert pendant le déconfinement un lieu qui s'appelle le Raspail, voilà, qui est au
le
point sur
Raspail.
Le boulevard Montparnasse, mmh. voilà, le boulevard Raspail, qui s'appelle l'hôtel Raspail, et il nous accueille, d'ailleurs il ouvre pour nous l'hôtel.
D'accord.
On connaît bien le lieu, il y a des flux, il y a des
donc
flux
vous
passants
vous mettez à l'étage,
de voitures.
Ça, et vous voyez mieux
au cinquième étage.
Ouais.
Il faut qu'on soit au cinquième étage. Enfin, au-delà.
Et vous comptez avec quoi
étage.
Des jumelles des... Ah, vous êtes comment?
Non, des capteurs. Donc c'est vraiment un travail. Voilà, c'est un capteur. C'est une intelligence artificielle qui est embarquée dans un capteur et qui va compter.
C'est mieux que des jumelles.
Qui va...
Tant Jean Louis, t'as noté à combien là? 12 500. Oui, non, c'est mieux, ouais. Capteur.
Oui, c'est mieux. C'est vraiment, je mets au défi quiconque de compter à la main un flux de personnes.
C'est arrivé quand même. Hein. C'est...
Et surtout pendant 4 heures.
Oui. Vous avez appris quoi pendant ce confinement à Sahel Adari?
En fait, on s'est rendu compte que, y compris pendant le confinement, il n'y avait pas personne. C'est-à-dire que même le 5 mai, donc bien avant le confinement, première mesure, on a quand même 300 piétons par heure. C'est pas rien, ça c'est pas zéro. Mm-hmm. Qu'on ait des voitures, ça paraît relativement normal parce qu'il y a des voitures qui sont quand même autorisées à circuler. En revanche, le premier constat que l'on a fait dès le 12 mai, donc le deuxième comptage, toujours avec la même méthodologie, c'est qu'on voit exploser le nombre surtout de véhicules, de voitures. C'est-à-dire que les voitures prennent 134%. C'est-à-dire qu'on passe de 477
ça, c'est, alors attendez, ça c'est déconfinement ou c'est oui c'est ça hein,
c'est ça, confinement déconfinement, on voit les véhicules
plus
exploser,
134%.
Ouais, plus 130%, et dans le même temps les piétons faire seulement si j'ose dire plus 88%.
Donc ça veut dire qu'on s'est réfugié dans sa voiture.
Exactement. En fait, la voiture a été un lieu de refuge. Alors là, on n'a pas le chiffre pour dire si les gens étaient. Notre caméra va pas jusqu'à l'intérieur des véhicules, donc on ne sait pas si les
personnes étaient
1, 2, 3. Ça viendra, je pense. Oui. Donc voilà, on peut faire l'hypothèse en plus que c'est des usages peut-être individuels, voilà, et qu'on a vraiment une valeur de refuge du véhicule enfermé et qu'on a qui protège, en tout cas dont on a
du côté sanitaire. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans sa voiture, on sait qu'il l'a touché, on sait que on a soi-même les mains sur le volant, donc ça risque pas d'être contaminé, forcément. Oui, bien sûr.
Exactement. On a pu lui opérer toutes le nettoyage qu'on a souhaité, etc., etc. Donc en fait, mais au 12 mai, on se disait bon, ben, voilà, les courbes, il y a une courbe qui reprend plus vite, c'est la voiture. Une un peu moins vite, ce sont les piétons. Et puis on a recompté mardi 19. Et là, on a été quand même très surpris de voir que la courbe des piétons baissait.
Mmh. Oui.
C'est-à-dire que c'était pas du tout une courbe qui continue à augmenter de manière linéaire. On a compté moins 13% de piétons. Donc de 570, on est passé à 495. Alors même que les voitures, elles, voilà.
Il y a donc les voitures qui sont comptabilisées, les piétons bien sûr. Encore les vélos?
Alors non, alors c'est intéressant les vélos, et il faut quand on veut appréhender les choses de manière un peu scientifique, il faut tout à fait reconnaître les angles morts de son système. Mm-hmm. Les vélos vont trop vite pour être comptés comme des piétons
et vont plus vite que les voitures.
Ah non, mais par contre ils sont trop fins, ils sont pas assez larges pour être comptés comme des voitures. Donc on a vraiment les scooters sont un angle mort
de notre comptage. Ils peuvent pas être comptés comme des piétons?
Non, ils vont trop vite. Ça, c'est vraiment
trop vite pour un piéton trop fin pour une voiture.
Et pas assez large.
Ah ouais.
Complètement. Donc là aussi, je pense que
il faut appeler l'usine de capteurs en disant il y a un problème.
Voilà. Bah, disons
Houston, il y a un problème.
Jamais...
Là, hein.
Exactement, on n'a jamais eu cet enjeu de compter ça, mais voilà, face aux besoins, je pense que la technologie va suivre.
Bon, bah merci en tout cas de nous avoir éclairé, Assel Adari, président du cabinet de comptage Occurrence, pour ce nouveau comptage qui tombait bien pendant le confinement, le déconfinement, et non plus que pendant les manifestations. Et encore une fois, merci parce que vous nous aidez bien quand il y a des grosses manifestations à Paris et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les chiffres. Merci encore à vous.
Merci à vous, au revoir.
À tout de suite avec Paul Lassen sur Europe 1. Nous vous racontons le déconfinement via les réseaux sociaux. Avec Paul Lassen.
Exactement. Bonjour Paul.
Bonjour Pierre, bonjour Ambline.
Et oui,
bonjour.
C'est tous les jours à 6h25. Nouveau rendez-vous. C'est le week-end de l'Ascension, Paul, week-end prolongé pour certains. Et il y a des chanceux qui ont pu rejoindre la plage.
Oui, des plages dynamiques pour la plupart, c'est-à-dire une plage où l'on ne peut pas s'arrêter. Un concept qui ne plaît pas vraiment sur les réseaux sociaux. Ce matin, sur une plage, ma sœur s'assoit après 45 minutes debout. La police accourt pour lui dire de se relever. L'épidémie de stupidité administrative n'est pas prête de se terminer. contaminée, témoigne cet internaute. D'autres à l'inverse...
C'est pas votre sœur. Hein,
non, c'est pas la mienne. C'est celle de l'internaute.
C'est le réseau social.
Voilà. D'autres à l'inverse critiquent ceux qui s'installent avec serviettes et parasols. Bravo les débiles, faudra pas pleurer quand les plages vont être refermées et qu'on va se retrouver reconfinés, attaque cet autre internaute sur une plage du Cap Ferret.
C'est pas votre sœur qui dit ça.
Non, c'est l'internaute du Cap Ferret.
Je m'arrête après. Hein.
Entre les deux, certains maires ont été obligés de rouvrir leurs plages, comme le maire d'Ajaccio.
Les plages seront ouvertes, régalez-vous.
Merci monsieur le maire.
Il a l'air heureux, hein, n'est-ce pas, de rouvrir sa plage. Le maire, eh bien, il a peut-être raison d'être sur la réserve selon des internautes, puisque des dizaines de plages en France sont déjà refermées dans le Morbihan, en Vendée ou dans le sud de la France. Un internaute énervé, bravo aux gros égoïstes irresponsables, et demain ça va venir chouiner parce que la plage est fermée.
Et on vous en parlait hein, sur Europe 1, sur certaines plages on pourra se poser comme à la Grande Motte où l'on peut bronzer tranquillement sur sa serviette.
Oui, et une photo qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, une jeune femme parquée dans un petit espace entouré de cordes. Photo rarissime d'une plage qui permet la bronzette, seule plage du genre en ce moment. Tape à l'œil, non, dit un internaute, alors qu'un autre est beaucoup plus critique. Des plages avec des espaces délimités et en plus, il faut réserver, la déprime complète. Beaucoup de reproches sur les réseaux sociaux, mais sur place, gros succès, certains enthousiastes se sont même retrouvés sans place.
Le succès a fait qu'on n'a pas pu avoir de place. Donc on est sur liste d'attente et si on va avoir une place lundi, il faudra réserver samedi.
Alors ça c'est pour ceux qui ont la chance d'être près de la plage, mais les autres ont dû rusé pour s'échapper de chez eux.
Oui, ils ont pu compter sur l'aide du gouvernement. Dans la journée, on apprenait qu'on pouvait se déplacer au-delà des 100 km, pardon, si on doit déménager. Génial, dit cet internaute. Les Parisiens vont tous prétexter un déménagement vers l'île de Ré pour faire le bonheur du commerce local. Dans le même temps, beaucoup se creusent la tête pour contourner cette interdiction. La prochaine étape, c'est quoi ? Aller chercher son dernier achat sur le Bon Coin, ironise un internaute. Le Gorafi, compte parodique du Figaro, remet lui les choses au clair sur Twitter. « Quitter ma ville pourrie ne sera finalement pas un motif impérieux pour se déplacer au-delà de 100 km. »
Pour ceux par contre qui ont décidé de respecter les règles, eh bien, il faut trouver des solutions pour passer le week-end.
Oui, surtout pour les citadins. Et un sujet a beaucoup fait réagir, c'est la réouverture le 11 juin d'un célèbre parc d'attractions français.
Ben oui.
Le Puy du Fou. D'un côté, on a les heureux comme cet internaute. C'est bien, ça va nous permettre de voir un peu autre chose que notre jardin. De l'autre, les circonspects. On veut tous aller sur la plage, mais à la place, on rouvre le Puy du Fou. Une ouverture qui fait au moins un heureux, Pierre.
Le Puy du Fou ne peut pas mourir. Alors priez, priez, mettez-vous à genoux, repentez-vous, chantez l'Alléluia.
Alléluia. Philippe Devilliers dans la voix de Nicolas Cantelou.
Oui, que l'on retrouve tout à l'heure avec grand plaisir à 9h moins le quart. Et un autre qu'on retrouve avec grand plaisir, c'est Laurent Cabrol.
Vous êtes trop aimable. Alors, en ce qui concerne les températures, je suis sidéré depuis ce matin, je le dis. Chers amis, vous avez pensé que je radote, mais enfin, c'est quand même ahurissant de voir qu'à l'heure actuelle, il fait 22 degrés à Boulogne-sur-Mer et 21 degrés à Dunkerque, qu'il en fait 20 à 3, 20 en banlieue parisienne.
C'est l'été.
19 à... oui, c'est l'été, enfin c'est plus que l'été, parce que là on arrive dans les pays chauds, là, 19 à Nice, mais il fait encore 18 à Lille, 17 du côté de Rennes, 16 à Nantes et à Lyon, 15 à Brest, et puis alors dans les pays chauds il fait froid, 9 à Figari. En fait c'est Figari, c'est vraiment l'exception qui confirme pas la règle, hein, parce qu'ailleurs il fait bon. Alors voyons maintenant le temps qui sévit, puisque nous avons une petite zone de pluie qui est entrée sur le littoral de la Manche, elle traverse cette partie du pays sur une largeur de 50 à 100 km, elle descend jusqu'à Rouen presque, et elle arrive, elle n'est pas très loin de Paris, mais je pense qu'elle n'ira pas, j'en suis sûr, et cette zone de pluie va persister une bonne partie de la journée. Ce sont des pluies, après ce sont des nuages, enfin faut pas exagérer, hein. La pluie n'est pas continue, loin s'en faut. Puis sur la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne et le Berry, ce sont des nuages et des éclaircies qui seront là en alternance. Enfin partout ailleurs, Lorraine-Alsace et tout le sud, eh bien là nous aurons un ciel voilé, mais un temps lourd, pesant, un temps qui sera un temps d'été, avec des valeurs qui échelonnement entre 23 et 30 degrés.
Merci Laurent Cabrol. Et bonjour François Geffrier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
6h30, un nouveau journal sur Europe 1.
ce bout de trottoir, il est sous mes fesses à peu près tous les matins. Et je pense qu'on a tous envie de se rouler dans l'herbe plutôt que de se rouler sur le bitume. Ouais, la logique est un peu douteuse.
Se rouler sur le bitume, c'est en effet une drôle d'idée. Les habitants des grandes villes en zone rouge se désespèrent de ne pas accéder à la fraîcheur des parcs et jardins toujours fermés. Dans les zones vertes, en revanche, les parcs à thème vont pouvoir rouvrir. Ce sera le 11 juin pour le Puy du Fou, qui espère attirer du monde dans son labyrinthe des animaux ou encore sa cinécénie. Pas simple pour les recherches de stage en ce moment. Les offres ont été divisées par 4 dans certains secteurs. Les infos du service économie d'Europe 1. Et puis, un spectacle seul en scène et seul dans la salle aussi. Christophe Alévèque diffuse son dernier show enregistré sans public. Votre invité dans un quart d'heure, Pierre.
Alain Griset, il est le président de l'Union des entreprises de proximité, les artisans, les commerçants. On va parler de l'apprentissage. Comment est-ce qu'on peut sauver cette filière professionnelle qui est en train d'accélérer avant la crise? Y aura-t-il des contrats pour les jeunes qui voulaient devenir apprentis? On en parle juste après le journal. 6h31, très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un coin de verdure, un coin de paradis, une fontaine, l'ombre généreuse d'un arbre, la brise qui rafraîchit, tout cela reste enfermé à double tour derrière les grilles des parcs de Paris.
Alors qu'il a fait beau et chaud, les règles sanitaires qui s'appliquent à la capitale, toujours classée en zone rouge, empêchent la réouverture des jardins. Mais comme l'a vérifié Hélène Terzian pour Europe 1, les Parisiens en manque de verdure se regroupent tout de même près des espaces verts.
On est adossé à la grille.
Juste à côté de l'entrée officielle du parc, c'est un peu absurde. On serait mieux à l'intérieur, ça, il n'y a pas de doute.
La grosse chaîne qui condamne le portail ne laisse pas de doute non plus. Le square est bien fermé, à double tour. Hyacinthe et Adrien partagent donc le petit muret qui fait office de banc public avec Hélène.
C'est le rendez-vous du trottoir, quoi. Ce bout de trottoir, il est sous mes fesses à peu près tous les matins. Et je pense qu'on a tous envie de se rouler dans l'herbe plutôt que de se rouler sur le bitume. Ouais, la logique est un peu douteuse, quoi.
Résultat pour Vincent, c'est un peu le parc est mort. Vive le parc.
Mine de rien, on les recrée par la force des choses juste à côté, donc on pourrait les réouvrir en organisant les flux et en essayant de maintenir un certain nombre de personnes à l'intérieur plutôt que de les fermer et laisser tout le monde se regrouper juste à côté.
Son fils a trouvé la parade. Il fait de la trottinette autour du square. Les parents empruntent le même circuit pour faire rouler les poussettes. Ce papa est remonté.
On est forcé d'être dans la rue et quand vous êtes dans la rue avec des gamins, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont par terre. Donc au parc, d'habitude, c'était propre. Et là, devant moi, il y a les poubelles par ramassés, là. Ils ont fait des dessins par terre avec la craie. Ils jouent tous ici. Aucun sens.
Et ça devient pire à l'heure de l'apéro, souffle-t-il, quand la cour des petits devient celle des grands.
Autre région, autre directive, François Geffrier, les parcs à thème situés en zone verte vont pouvoir rouvrir à partir du 2 juin.
C'est le président du Puy du Fou en Vendée qui a annoncé la nouvelle hier. Lui-même se donne jusqu'au 11 juin pour tout organiser. Les parcs d'attractions devront tout de même présenter un protocole sanitaire convaincant. Mais la nouvelle est excellente pour Arnaud Bennett, président du SNELAC, c'est le syndicat professionnel du secteur, qui promet de faire tout ce qu'il faudra.
Le ciel s'illumine, on va pouvoir retravailler, donc c'est un immense soulagement. Les sites ont perdu à peu près 30% de leur chiffre d'affaires, donc il était important de reprendre pour préserver notre capacité d'investissement, nos emplois. Le secteur, c'est 30 000 personnes qui travaillent, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires, donc c'était quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Il y avait une garantie de sécurité, puisque nous sommes des professionnels des flux, nous sommes habitués à gérer des flux importants, donc il n'y avait aucune raison que nous ne puissions pas proposer un protocole sanitaire qui a permis de rassurer finalement les autorités sur notre capacité à accueillir nos visiteurs en toute sécurité, sachant qu'on est des sites de proximité et dans le contexte actuel, on souhaite que les gens ne parcourent pas des milliers de kilomètres pour se distraire. Je pense que nos produits répondent parfaitement à ce contexte.
Le patron du syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, joint par Marion Gauthier pour Europe 1. Reste la question des restaurants dont la date de réouverture n'est pas encore certaine. Respecter les distances sanitaires dans ces établissements, ce sera le gros défi pour les professionnels, tout en essayant de rester rentable.
À Nantes, on réfléchit à étendre les terrasses sur l'espace public. La mairie n'est pas contre, au contraire, elle suit le dossier attentivement et d'autres villes pourraient lui emboîter le pas. Charles Guyard est allé à la rencontre de restaurateurs en pleine préparation.
Et voici, je mets ça dans le sac.
Au Saint-Mihiel, comme ailleurs pendant la crise, les repas, c'est à emporter.
Voilà, bon appétit.
Le 2 juin, si l'épidémie n'a pas progressé, le restaurant pourra de nouveau accueillir les clients. Seulement, en respectant les distances de sécurité, la salle passerait de 49 à une dizaine de couverts, tout au plus. Pour le gérant Nicolas Verdi, autant rester fermé. La solution, agrandir la terrasse.
Normalement, elle s'arrête ici. Cet accès de livraison, il faudrait qu'on le mette en terrasse, quoi. Là, je pourrais gagner
au moins une trentaine de couverts.
Si on peut mettre l'intérieur à l'extérieur, c'est parfait.
Des tables sur un parking, une place ou directement dans une rue condamnée, le temps d'un service ou d'une journée. Voilà l'idée portée par l'association Plein Centre qui représente les quelques 500 cafés et restaurants nantais. Olivier Dardet, son président.
Il faut faire ça dans des bonnes dispositions, sur le plan bien sûr sécurité, les accès pompiers. Avec le bon voisinage, si je m'étale, il faut que tout le monde soit d'accord. Il y aura des situations différentes par rapport aux rues et aux quartiers.
Des propositions sur lesquelles travaille déjà la mairie de Nantes, mais pas seulement. D'autres villes mènent une réflexion similaire comme Marseille, Bordeaux ou encore Toulouse. Dans la ville rose, on étudie même la possibilité de ressortir les chalets de Noël pour une activité de restauration. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Il est 6h36.
Le gouvernement va trancher sur la date du second tour des élections municipales. Édouard Philippe s'exprime ce matin. Cela devrait être le 28 juin prochain, sauf avis contraire du Conseil scientifique 15 jours avant cette date.
Parmi les secteurs les plus violemment affectés par la crise, l'aéronautique bien sûr, des flottes entières sont clouées au sol, beaucoup de commandes d'avions sont annulées.
Airbus a baissé sa production d'un tiers et ceux qui souffrent déjà, ce sont les sous-traitants, car Airbus porte l'économie de la région Occitanie et des dizaines d'entreprises que Benjamin Péter a contacté.
On a 50% du chiffre d'affaires en moins. Soit on continue à regarder nos écrans de prévisionnel et on déprime, soit on décide d'essayer de se secouer.
Alors Jean-Michel Seigneret a décidé de se diversifier. Ils ont créé un distributeur de gel hydroalcoolique, mais pas de quoi compenser les baisses de commandes de son entreprise de 200 salariés qui travaillent en rang 2, c'est-à-dire pour des sous-traitants d'Airbus.
Nos rangs 1 rapatrient de la charge en interne, c'est-à-dire qu'ils ne passent plus toute commande au rang 2, et des stocks. Nous, on le fait porter malheureusement sur nos sous-traitants à nous, en cascade. C'est comme une source, hein, quand on est en bas, il n'y a plus que des gouttes en bas.
En Occitanie, 86 000 personnes travaillent pour la sous-traitance. Alain Di Crescenzo, le président de la CCI, redoute un scénario à la Détroit aux États-Unis. Trop dépendante de l'industrie automobile, la ville s'était déclarée en faillite en 2013.
50% de baisse d'activité, ça fait un risque sur 40 000 emplois. C'est assez catastrophique. Et si c'est votre industrie phare que vous perdez, ça peut ressembler à Détroit. C'est justement ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'on demande à tous de réagir.
Et lui réclame des aides financières, annuler les charges, pas seulement les reporter, et accompagner les salariés pour éviter de perdre ce savoir-faire et ses capacités de production.
Renault joue sa survie, déclare ce matin Bruno Le Maire dans le journal Le Figaro. Le groupe a demandé un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. Ce prêt, je ne l'ai pas encore signé, précise le ministre de l'Économie. Il exclut par ailleurs toute hausse de la fiscalité pour financer la relance. Je souhaite au contraire que nous poursuivions les baisses d'impôts, dit-il.
Bruno Le Maire qui sera l'invité d'Europe 1 à 8h15. Vous pouvez lui poser vos questions aussi avec le 3921 et le hashtag Radio Ouverte.
On reste en économie avec la galère des étudiants en recherche de stage. Ça vous concerne peut-être à la maison. Pour valider une année ou un diplôme, ils sont des centaines de milliers à en chercher en ce moment même. Mais le déconfinement ne fait pas de miracle, comme ces étudiants l'ont confié à Clément Le Saffre.
On doit trouver pour le 25 mai notre stage et on ne sait pas comment faire vraiment. Ils jouent avec notre avenir. Hier, tout allait bien. Aujourd'hui, c'est le désastre.
Eva est en dernière année de BTS graphisme en Haute-Marne. Alors que l'obligation de faire un stage avait été annulée dans un premier temps à cause du confinement, le rectorat a subitement changé d'avis cette semaine et la jeune femme doit trouver en urgence un stage indispensable pour valider son cursus.
Clairement, j'appelle oui, effectivement, partout. Les entreprises, c'est soit négatif parce que c'est fermé, soit c'est négatif du coup par rapport au Covid, soit parce qu'on ne peut pas dépasser les 100 km. On se retrouve sans rien du jour au lendemain si on ne fait pas notre stage.
Pas de stage, c'est dramatique pour les étudiants, mais pas uniquement. Franck Bournois est président de la commission formation de la Conférence des grandes écoles. Il appelle les entreprises à maintenir le plus de stages possible.
Les stagiaires d'aujourd'hui, c'est les collaborateurs de demain. Et on sait que le taux de conversion habituel stagiaire vers l'emploi, c'est pas loin de 30%.
Et pour aider les étudiants, le gouvernement a allongé le délai pour effectuer un stage de fin d'année. Il pourra être réalisé pendant l'été, voire jusqu'au 31 décembre dans certains cas.
Double galère pour les agriculteurs français déjà en difficulté. Faute de main d'œuvre pour assurer les travaux au champ, voilà qu'ils craignent la sécheresse.
En particulier dans le Haut-Rhin, département classé rouge non seulement pour le coronavirus, mais aussi pour risque très probable de sécheresse cet été. Reportage dans un territoire qui se prépare et qui essaye de s'habituer avec un peu moins d'eau entre Gommersdorf et Masvaux. Arthur Mbaché.
10 bottes de foin par hectare, ça c'est la norme, sans sécheresse. Ce que Delinas doit produire pour nourrir ses 200 bêtes. Cette année, jusqu'à 5 fois moins, dit-il, sur certaines de ses parcelles.
Vous prenez une tige, eh bien, on n'arrive pas à le sortir tellement c'est sec.
En fin de compte, on a l'impression qu'on a du foin.
On a juste des tiges, on a quelques fleurs.
Ça, c'est lié au manque d'eau.
L'agriculteur sait qu'il doit vivre avec le climat. Sauf que là, ça fait quand même 3 années que de suite, ça nous inquiète beaucoup parce que là, ça devient compliqué.
Le producteur de lait attend l'aide des céréaliers de la plaine d'Alsace. Et oui, jamais eux en manque d'eau grâce à la nappe phréatique pour qu'après leur blé, cet été, ils produisent des plantes fourragères pour les éleveurs. 30 km au nord, Masbeau.
C'est une menace très concrète et puis des coupures d'eau peuvent être prévues.
Pour... Village habitué aux allers-retours estivaux de camions-citernes d'eau potable, Florent Ducoté, en charge de l'eau à la commune, attend la fin de la modernisation de son système de gestion.
Ces travaux auraient dû être finis depuis le début du confinement. La société qui nous fait les travaux n'a pas encore pu reprendre sur site.
À l'automne, si tout va bien, finit la menace de la coupure d'eau pour les 100 habitants d'un hameau du village grâce à 2 km de tuyaux reliés à la rivière en bas dans la vallée. Ici, désormais, on ne compte plus sur les sources de montagne.
Et on en parlera de cette sécheresse qui touche les agriculteurs et les régions avec Emma Aziza, hydrologue, présidente de Mayenne Centre de Recherche sur l'Adaptation face au changement climatique. Ça sera tout à l'heure dans le journal de 7h.
L'actualité à l'étranger, d'abord les États-Unis. Plus de 94 000 morts du coronavirus. Les drapeaux seront en berne aujourd'hui et jusqu'à dimanche. La Russie, elle, envoie des militaires en Sibérie pour contenir la propagation du virus dans la plus grande mine d'or sur son territoire où près de 1200 des 6000 employés ont été contaminés. Et puis, Haïti, où des détenus de la prison de Port-au-Prince sont atteints du coronavirus, c'est le plus grand centre carcéral du pays avec plus de 3600 détenus pour une capacité de 800 places.
Europe 1, il est 6h41.
On passe au sport et cette question, François Geffrier. Le foot français est-il vraiment en faillite?
Oui, à en croire Mediapart, le site d'information très alarmiste sur la situation du foot pro. 541 millions d'euros, ce serait le déficit net des clubs de Ligue 1. Alors bien sûr, comme va nous l'expliquer Julien Froment, l'arrêt du championnat depuis le 13 mars n'a pas aidé. Mais pour autant, les clubs ne devraient pas mettre la clé sous la porte.
Alors si on se contente à la Ligue 1, il y a eu 7 faillites en 45 ans.
Même si les clubs français sont fragilisés par la crise du Covid-19, l'économiste du sport, Lucas Rondel, le rappelle, les faillites, ça n'arrive quasiment jamais. Pour lui, il n'y a pas de quoi s'alarmer entre le prêt garanti par l'État, les transferts de joueurs et pour certains clubs, le soutien des actionnaires.
Si avec le prêt de 220 millions, plus si les résultats de mutation, plus éventuellement les apports de trésorerie des propriétaires, je pense que, alors globalement, parce qu'après, club par club, il peut y avoir des difficultés. Je pense qu'effectivement, le foot va passer ses difficultés. Je pense qu'il n'y a pas feu au lac. Hein.
Et autre manne financière conséquente qui devrait soulager les finances des clubs, les nouveaux droits TV, qui passeront l'été prochain de 780 millions à 1,2 milliard d'euros.
On termine avec un petit spectacle, mais en applaudissant devant votre écran. On s'y habituait pendant le confinement. Figurez-vous que Christophe Alévèque a décidé de jouer tout seul, mardi dernier, il y a 3 jours, dans une salle vide, au théâtre du Rond-Point, la grande salle, son nouveau spectacle qu'il a appelé Le Trou Noir, consacré à la crise, et qu'il a ensuite posté sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Diane Chénauda, elle aussi, a applaudi devant son écran.
Il y a d'abord le vertige, le désespoir de l'artiste qui joue devant une salle vide, privée de son public.
N'importe quoi, c'est ridicule. Qui est-ce qui a eu cette idée à la con? Ah, c'est moi. Oh la vache, c'est bizarre. Alors, bonsoir. Ben non. Bonsoir personne.
Situation aussi absurde que la période surréaliste que nous vivons, selon Christophe Alévèque, qui déroule le film de ces dernières semaines avec le mordant qu'on lui connaît.
Tout le monde aura compris le principe des masques. Hein. Au bout d'un moment, quand même, c'est rentré. Quand on n'en a pas, ça sert à rien. Quand on en a, c'est obligatoire. Ça, c'est de la politique.
Ce spectacle est avant tout un cri, une thérapie pour Christophe Alévèque.
Je ne savais pas quoi faire. J'avais le sentiment de servir à rien du tout pendant cette période. Donc je me suis dit, allez. Et puis c'était un moyen aussi de faire coucou. Coucou, on est là. Nous, le métier du spectacle, le théâtre. De dire, nous oubliez pas. Coucou.
Jouer devant une salle vide, c'était une première et une dernière pour Christophe Alévèque, qui souhaite la réouverture des théâtres dès que possible.
Voilà, ne nous oubliez pas le cri du cœur de Christophe Alévèque et avec Diane Chénauda pour
oui,
Europe 1.
Et Diane Chénauda, c'est tout un spectacle aussi. Merci, c'était le journal de François Geffrier qu'on retrouve à 8h. Ben c'est vrai.
Il est 6h44, la matinale d'Europe 1 avec vous, Pierre de Villeneuve. Et vos questions de droit sur le hashtag Radio Ouverte, les réponses avec notre expert juridique Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Salut Pierre, bonjour à tous.
Alors depuis le Covid, de très nombreux commerçants de proximité refusent le paiement en espèces. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 6h. Ils demandent de sans détour aux clients de régler leur achat par carte bancaire avec le fameux sans contact. On a peur de la contagion parce qu'on manipule les pièces et les billets. Est-ce que c'est légal, Roland, de refuser un tel paiement en invoquant la crise sanitaire ?
C'est totalement illégal, Pierre, hein, comme vient d'ailleurs de le rappeler le défenseur des droits qui a été interrogé par différentes associations de consommateurs. Ce serait même discriminant. Le paiement en espèces doit obligatoirement être accepté par le commerçant et en refusant un tel mode de paiement, il s'expose à une amende de 150 euros et il risque même d'être sanctionné au titre du refus de vente qui est réprimé encore plus durement par le Code de la consommation. En fait, les cas de refus de paiement en argent liquide sont prévus très précisément par la loi. C'est par exemple le client qui veut fourguer au commerçant plus de 50 pièces de monnaie pour régler son achat, ou le cas du commerçant qui n'a pas assez de pièces pour rendre la monnaie, ou encore si les billets remis en paiement sont trop abîmés. De la même manière, on le sait, il existe des plafonds au-delà desquels on ne peut plus payer en espèces, par exemple 1000 euros maximum pour régler un achat chez un commerçant.
Et donc, vous nous dites bien ce matin, Roland, que la loi d'urgence sanitaire n'a pas autorisé les commerçants à donc exiger que les paiements ne soient faits que par carte bancaire.
Je vous le confirme, Pierre, et cela aurait été discriminant de prévoir de telles dispositions, car nombreux hein, sont les Français qui n'ont pas de carte bancaire, comme certaines personnes âgées, les personnes en situation de grande précarité financière, les mineurs aussi, les personnes sans abri ou encore les demandeurs d'asile. Et toutes les personnes d'ailleurs qui rencontreraient ce problème peuvent le signaler auprès du défenseur des droits ou de la direction départementale de la protection des populations.
Et bien comme ça, on est parfaitement renseigné. Merci beaucoup Roland Pérez, votre merci question bien. De droit tous les matins sur Europe 1, juste après le journal de 6h30.
Il est 6h46 sur Europe 1, les acteurs de l'actualité en direct. Votre invité Pierre de Villeneuve, Alain Grisé, président de U2P, Union des entreprises de proximité.
Bonjour Alain Grisé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Les apprentis sont menacés dans cette crise. Les apprentis d'aujourd'hui, on le dit souvent, ce sont les collaborateurs de demain. Alors que le gouvernement, notamment Muriel Pénicaud, a toujours poussé l'apprentissage jusqu'à présent, vous estimez aujourd'hui qu'ils sont abandonnés ?
En tout cas, il est urgent que le gouvernement prenne des mesures. Nos collègues aujourd'hui sont inquiets pour leur entreprise. Et néanmoins, nos secteurs d'activité sont des secteurs qui travaillent beaucoup avec les apprentis, qui les accompagnent dans leur formation. Et donc, nous, on souhaite pouvoir continuer à accompagner ces apprentis.
Comment ?
Pour que demain,
avec quel outil ?
Comment en prenant des apprentis dans nos entreprises. Bon, là, il y a une question naturellement d'accompagnement financier. Mmh. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les apprentis puissent naturellement toucher leur salaire, mais que on ait un dispositif identique que le chômage partiel. Et puis à côté, il faut naturellement accompagner les centres de formation qui vont avoir des surcoûts importants en termes de santé et de garantie sanitaire des apprentis, mais également parce qu'il va falloir prendre moins d'apprentis dans les ateliers, dans les laboratoires, et donc doubler les sections, dont avec le nouveau financement des centres de formation depuis les lois Avenir Professionnel, s'il n'y a pas de
donc
contrat...
Donc des salaires,
pas...
vous dites des salaires comme le chômage partiel, ça veut dire des salaires pris en charge par l'État, c'est ce que vous demandez.
Oui, je crois que c'est absolument indispensable. Nos entreprises sont très fragilisées. On voyait hier là un article qui disait qu'il y avait plus de 20% des entreprises qui risquaient la disparition. Donc aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de pouvoir maintenir les entreprises et derrière, continuer à former pour préparer l'avenir, pour les jeunes d'abord, qui ont besoin d'être formés, mais également pour nos entreprises, pour demain avoir des salariés compétents.
Qu'est-ce que vous pensez de la proposition du MEDEF qui demande une aide unique de 10 000 euros pour tout recrutement d'un apprenti ?
Oui, ben c'est une disposition comme une autre. Nous, on souhaite qu'au bout du compte, la rémunération soit prise en charge par l'État. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises et de permettre aux jeunes de trouver un apprentissage.
Et alors, justement, parce qu'on peut également voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, l'État peut vous rétorquer que déjà, le chômage partiel coûte beaucoup d'argent. Et, vous l'avez vu d'ailleurs dans les dernières déclarations, soit des ministres de Bercy, soit de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, on va diminuer, on va réduire la voilure sur le chômage partiel. Si maintenant vous dites, il faut aussi donner aux apprentis, l'État va vous dire, on n'a plus d'argent.
Oui, non, mais c'est une question importante à laquelle on travaille. D'abord, le chômage partiel était prévu pour à peu près 12,5 millions de salariés. On voit qu'en réalité, il va à peu près en avoir 8,5 millions à 9 millions. Mm-hmm. Et puis ensuite, ce qu'il faut voir, c'est l'avenir. Est-ce qu'il vaut mieux accompagner les entreprises au chômage partiel ou alors que demain, il y ait beaucoup plus de chômage vraiment en dur? Et donc, on voit bien que l'État français a choisi l'accompagnement au chômage partiel. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route.
Oui, parce que, en fait, ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'il y aurait un coût social de l'abandon des apprentis qui se traduirait par le chômage à la rentrée.
Naturellement, il y aurait un coût social. Et puis, il est évident qu'il ne faut pas que ces jeunes perdent l'espoir de trouver un emploi demain. Et donc,
Mais ça, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Et on n'est pas là pour, comment dirais-je, fermer le clapet aux apprentis. Loin de là. On est là justement pour les encourager. Encore une fois, ce sont nos collaborateurs de demain et peut-être nos patrons, d'ailleurs, Alain Griset. Ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une équation comptable Et ce que vous dites aujourd'hui est très important, parce que vous dites que cette équation comptable, si on n'aide pas nos apprentis, ça va être doublement plus préjudiciable à la rentrée de septembre.
Oui, tout à fait. C'est comme le chômage partiel. L'UDP, on souhaite que le chômage partiel puisse continuer de façon à ce qu'on soit accompagné progressivement. Il y aura naturellement une diminution puisque l'activité va reprendre. Et nous, on espère qu'elle reprenne très vite. Mais à un moment donné, la politique qui consiste à dire on prend en charge le chômage partiel, c'est bien de dire on n'abandonne pas les salariés, il faut pas abandonner les apprentis, faute de quoi ça aurait servi à rien pendant 3 mois de payer le chômage partiel. Si aujourd'hui ça s'arrêtait, on aurait un chômage massif, comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis.
Bruno Le Maire sera tout à l'heure l'invité d'Europe 1 à 8h15. Vous avez un message à lui adresser justement en ce sens ?
Oh ben, nous avons des réunions plusieurs fois par semaine avec Bruno Le Maire, avec Muriel Pénicaud. Le sujet est sur la table. Nous avons une réunion là-dessus spécifique avec Madame Pénicaud la semaine dernière. A priori, le gouvernement devrait, d'ici une quinzaine de jours au maximum, annoncer les décisions sur l'apprentissage. Et nous, on attend beaucoup de cette prise en charge par l'État.
Et est-ce que les modalités de l'apprentissage, est-ce qu'elles sont trop compliquées, comme ont pu le dire certains observateurs économiques jusqu'à présent?
Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a naturellement des dispositifs qui ont été modifiés avec la loi Avenir Professionnel. On attend avec impatience également les guides sanitaires qui seront impliqués au centre de formation d'apprentis. Bon, naturellement, ça va tout ça générer encore un peu de complexité, mais globalement, nos entreprises sont tout à fait disponibles pour accompagner les apprentis. Vous savez, en particulier dans l'artisanat, vous avez un apprenti sur deux qui devient après chef d'entreprise, et donc c'est l'avenir même de notre secteur qui est en cause.
Eh bien, merci beaucoup Alain Griset d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité.
Merci à vous, bonne journée.
Une fenêtre ouverte sur le monde, c'est votre revue de presse internationale. Dans une minute, nous serons en Chine, en Israël et au Pérou. À tout de suite. Il est 6h53, vous écoutez Pierre de Villeneuve sur Europe 1 et c'est la revue de presse internationale.
Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Aujourd'hui, on part en Chine, en Israël et au Pérou. Bonjour Sébastien Le Belzic.
Bonjour Pierre.
À la une chez vous en Chine.
Alors la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, 7 minutes de silence en hommage aux victimes de l'épidémie à l'ouverture de la réunion de l'Assemblée populaire à Pékin. C'est le gros titre notamment ce matin du Global Times, le quotidien porte-voix du Parti communiste qui s'enflamme pour cette grande assemblée qui enfin se réunit, mais avec 2 mois de retard quand même en raison de l'épidémie. Une réunion placée sous très haute surveillance, comme l'explique le quotidien de Pékin. Les 3000 délégués ont tous été testés, ainsi que les observateurs et les journalistes. Un test de dépistage systématique avant de pouvoir assister aux réunions. Tout le monde est ensuite placé à l'isolement le temps que dure cette assemblée, qui sera cette année quand même plus courte que d'habitude, en raison bien sûr de l'épidémie. L'épidémie qui est bien sûr au cœur de cette réunion annuelle à Pékin, comme le rappelle l'agence de presse chinoise.
Merci Sébastien, direction Israël. Bonjour Clotilde Marfco.
Bonjour Pierre.
Vous êtes correspondante en Israël pour Europe 1. De quoi est-ce qu'on parle chez vous?
Des photos de jeunes filles de dos, en short, alignés devant des grilles d'école. Alors que le thermomètre dépasse les 40 degrés un peu partout en Israël, la presse relate cette fronde de plusieurs centaines de collégiennes et lycéennes pour pouvoir s'habiller comme elles veulent dans les salles de classe. Tout a commencé par le renvoi de plusieurs jeunes filles d'un collège du centre du pays. Motif, elles portaient toutes des shorts trop courts, explique la chaîne de télévision I24. Sauf que les garçons, eux, n'ont pas été inquiétés, ajoute le quotidien Yediot Aharonot, qui rapporte que l'incident a fait des émules et que des manifestations spontanées de jeunes lycéennes ont éclaté un peu partout dans le pays. Les parents ont peur, explique le journal de gauche Haaretz. Ils se disent que si leurs filles capitulent sur la longueur du short, les juifs les plus religieux les obligeront bientôt à se couvrir les bras et les jambes.
Merci Clotilde. On part d'Israël pour rejoindre le Pérou. Bonjour Amanda Chaparro.
Bonjour Pierre.
À la une chez vous.
Ici, on parle de la situation catastrophique de la ville d'Iquitos, en plein cœur de l'Amazonie péruvienne, une ville d'un demi-million d'habitants qui compte seulement 2 hôpitaux arrivés à saturation. Le principal marché de la ville, lui, est devenu un terrible foyer infectieux. Quasiment 100% des vendeurs ont été testés positifs au Covid, nous rapporte Le Comercio. Il a depuis été fermé. À Iquitos, les chiffres officiels dénombrent une centaine de morts, mais selon le média d'investigation Ojo Publico, il y en aurait en réalité 9 fois plus. plus, les hôpitaux manquent de tout, de personnel, de ventilateurs, de médicaments et surtout de ballons d'oxygène. Il n'y en a qu'une cinquantaine quand il en faudrait 500 par jour, estiment les médecins. Des usines de production devraient opérer sous peu, mais le temps presse. Une personne meurt toutes les 35 minutes du Covid dans l'hôpital régional.
Merci Amanda Chaparro, correspondante d'Europe 1 au Pérou. Votre fenêtre ouverte sur le monde, c'est tous les matins avec notre réseau de correspondants pour cette revue de presse internationale.
Europe 1. La matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve.
Alors à partir de 7h, il va être beaucoup question d'automobile. Pourquoi ? D'abord parce que le secteur de l'automobile est en crise et aussi parce que Renault, symbole national, fleuron de l'industrie française, souffre énormément depuis le début de la crise du Covid-19. Le gouvernement va annoncer en début de semaine prochaine un plan de soutien à la filière et devrait effectivement régler le dossier de Renault. Renault joue sa survie, dit ce matin Bruno Le Maire. Bruno Le Maire dans le Figaro, Bruno Le Maire sur Europe 1 tout à l'heure à partir de 8h15 avec Sonia Mabrouk. Ensuite à 8h30, vous lui posez toutes vos questions au 3921, également sur le hashtag Radio Ouverte. Avant lui, à 7h40, c'est Francis Bartholomé, le président du CNPA, le Conseil National des Professions Automobiles, qui sera là avec nous pour envisager justement ce plan de soutien à la filière. Et le message que va passer Francis Bartholomé, c'est bien de soutenir la relance économique sur l'automobile à travers les voitures électriques et hybrides, mais pas que, parce que la majorité, 95% des voitures qui attendent sur les parkings des concessions, des distributeurs, eh bien ce sont des voitures thermiques. Et là aussi, il faut une forme de prime à la conversion. C'est ce que nous expliquera Francis Bartholomé, également éclairage écho de Nicolas Barré sur ce sujet, les pistes du plan de relance de la filière automobile. Ça sera dans le journal de 7h. À suivre également l'innovation avec Anis Mbida, ça sera à 7h15. Avec le lancement à Paris de trottinettes avec un casque intégré pour votre sécurité. Et puis Axel de Tarlé, lui, nous parlera du coût de la vie qui, selon les premiers indicateurs, risque de flamber dans les semaines et dans les mois à venir. La météo, mon cher Laurent Cabrol.
Va trottine, va chemine, va petit pas, quinquin, de ci, de là. C'est pas
voilà,
mal, hein.
Ça c'était hein Laurent Cabrol. Et
ça
après,
c'était la trottine.
On veut
c'était...
l'autre Laurent Cabrol.
C'était pour la trottinette.
Alors, sais.
Dans
j'aimerais bien vous
Cabrol
voir en trottinette, je vois souvent à moto.
Oui, bah oui, trottinette, non pas trop. Bon alors, je vais vous dire ce qui se passe. Tous les modèles depuis pratiquement une semaine annoncent que ce congé de l'Ascension sera mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire deux jours de grosse chaleur.
Ça c'est une cabrolade ça.
Et deux jours de temps plus ou moins humide. Alors, la chaleur, on l'a eu hier, on l'aura dimanche, tout se confirme. Malheureusement aujourd'hui, ou malheureusement ou heureusement, enfin bref, vous aurez de la pluie est déjà arrivée sur les côtes de la Manche, mais elle restera sur les côtes de la Manche, et même elle va s'atténuer au fil des heures pour laisser un brin de soleil dans l'après-midi. Donc c'est cette petite zone de pluie que l'on voyait tout à l'heure au Havre, à Rouen, au Mans, etc. Cette zone de pluie va s'effriter, va s'en aller. Bon. Et puis, nous aurons un temps souvent nuageux sur une bonne moitié nord de la France pour la journée d'aujourd'hui, y compris sur la région parisienne, avec certes quelques percées de soleil ensoleillées, mais enfin, ce ne sera pas folichon. Sur les régions de l'extrême sud, là, nous aurons carrément un temps ensoleillé et largement ensoleillé. Demain, samedi, alors c'était prévu, ça se confirme. L'est et le sud seront sous un ciel agité avec des orages parce que l'air chaud et l'air froid, etc. Je ne vais pas vous expliquer tout ça, ça ne sert à rien. Le tout est de savoir que vous allez avoir de la pluie dans l'est et dans le sud. Et puis sur la moitié nord, ce sera un temps plutôt dégagé, y compris sur la capitale et près de la Manche. Et puis dimanche, il fera beau partout. Et oui, nous aurons du soleil pratiquement partout avec des températures qui vont commencer à regrimper. Et la semaine prochaine sera une semaine estivale. En attendant, mais ça, c'est un langage que votre serviteur, en attendant un début de juin qui serait un petit peu plus frais.
Merci Laurent Cabrol. Et voici Hélène Zeladi. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.